On va s'arrêter sur cette pensée, donc la source de notre joie. Et pour cela, on va lire d'abord dans 1 Pierre au chapitre 13, non, que dis-je, chapitre 1er, verset 3. Donc si vous avez le Nouveau Testament avec vous, vous pourrez lire avec moi ou écouter attentivement le texte 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Il y dit ceci, je vais me déplacer parce que j'ai un peu d'ombre là, voilà. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à leur être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, c'est-à-dire vous en tressaillez de joie, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse, c'est-à-dire de joie, indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole qui est pleine d'encouragement. Puis je vais vous inviter à vous souvenir, on ne va pas ouvrir la parole, vous connaissez tout ce texte, je suppose, de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, où il est écrit « Soyez toujours joyeux ». Alléluia. Et généralement, quand je lis ce verset, je dis « Cachez votre joie ouais. ». Soyez toujours joyeux. Je dirais simplement, déjà pour rentrer dans le sujet, pour ne pas prendre trop de temps ce matin, soyez toujours rayonnant de joie. Et là, peut-être, vous comprenez plus précisément ce que nous allons méditer ce matin. Dans Parole vivante, il est dit ceci, « Conservez en tout temps votre joie. » La même pensée, mais dans une traduction différente. Et je trouvais pour chacun d'entre nous ce matin qu'il était bon peut-être de souligner cela. « Conservez en tout temps votre joie. » Parce que peut-être, je dis bien peut-être, notre joie, elle est en dents de scie parce que, comme nous l'avons lu dans l'épître de Pierre, elle est peut-être liée aux circonstances de la vie. Et quoique nous le souhaitions pas ou point, la parole de Dieu nous a précisé ce matin que, bien que nous soyons dans la joie, dans l'allégresse, de voir la bonté, la fidélité de Dieu, et puis l'espérance qu'il a mis dans notre cœur, notre joie, Elle est parfois en dents de scie, parce qu'elle est dans les diverses épreuves qui sont permises par Dieu. Alléluia. Et là, on aurait pu dire, malgré qu'on dise les diverses épreuves permises par Dieu, nous aurions pu dire tous ensemble, merci Seigneur. Parce qu'il faut la lier à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les diverses épreuves sont permises par Dieu. Il est même dit, elles sont nécessaires. Pourquoi faire ? Pour purifier notre foi. Pour la rendre aussi belle, si je prends cette expression, cet adjectif, aussi belle que l'or, mais un or pur, afin d'acquérir la vie éternelle. C'est-à-dire que les épreuves que le Seigneur permet ou nous envoie, elles sont nécessaires parce qu'elles nous préparent à rentrer dans la gloire éternelle. Et il ne faut pas redouter les épreuves, parce que dans les épreuves qui sont permises par Dieu, nous sommes sûrs, ou celles qui peuvent nous arriver de l'extérieur, nous sommes sûrs qu'étant qu'enfants de Dieu, nous vaincrons les épreuves, parce qu'il est avec nous, et parce qu'il nous a promis la victoire. Et la plus belle des choses, mes frères et sœurs, que nous pouvons avoir dans notre cœur et dans notre esprit, c'est de savoir que même si je dois partir par une épreuve, quelle qu'elle soit, j'aurai la victoire finale. Et c'est cela qui procure notre joie. Il faut bien faire différence, frères et sœurs et amis, ce matin, entre la joie que je peux appeler naturelle et la joie divine qui nous est accordée par Dieu. Nous sommes assujettis, frères et sœurs, vous le savez comme moi, à différentes ou à diverses épreuves. Et par rapport aux épreuves terrestres que nous connaissons et que nous vivons, nous sommes amenés, parce que c'est humain, parce que c'est naturel, à connaître des temps de peine et des temps de joie. La joie, ici-bas, peut se manifester par le rire ou les sourires, et la peine se manifeste par les pleurs. Et quand on lit les Saintes Écritures, il est bien écrit que parfois il nous faut passer par la vallée de Baca, qui est la vallée des pleurs. Mais dans la vallée des pleurs, eh bien, nous avons aussi cette espérance que l'épreuve nous amène à sortir, par la grâce de Dieu, des difficultés. Et après la vallée de Baca, il y a le temps de la réjouissance, parce que dans le désert, le Seigneur fait refleurir la nature. Alléluia. Et dans le désert, le Seigneur est capable de sortir des sources d'eau pour nous désaltérer. Alléluia. Dans le sens spirituel, bien sûr. Il est écrit dans Colossiens au chapitre 1er, verset 11, c'est ceci, parole vivante, c'est Paul qui écrit cela. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capables d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. C'est encourageant, non? Ah oui. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. La source de notre joie, elle est en premier lieu attachée à notre salut. C'est ça qui procure en nous une grande joie. Ainsi, Ésaïe, au chapitre 12, verset 3, parole du semeur, donc je vais vous citer des versets, bien sûr. « Oui, Dieu est mon sauveur, nous aussi. Je me confie en lui et je n'ai plus de crainte. » Car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants ou de mes louanges. Il m'a sauvé. Alléluia. Vous avez la même certitude ? Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Amen. Amen. Aux sources du salut. Habacuc, dans son livre, au chapitre 3, verset 18, dit ceci, « Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. » Alléluia. Je suis heureux. Amen. Ésaïe 35, verset 10, traduction d'Arbi, « Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion, c'est-à-dire Jérusalem. » Et nous avons une Jérusalem qui nous attend, c'est la Jérusalem céleste. Alors, avec des chants de triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront l'allégresse et la joie, et le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Alléluia. Ça confirme un petit peu ce que nous venons de dire, que le chrétien est assujetti à certains combats, certaines luttes. Vous savez, on peut parfois se poser des questions. Non. Moi, je sais que personnellement, je me suis posé des questions dans des situations qui nous paraissent au-delà de notre compréhension. Et on se dit pourquoi ? sans rentrer dans une opposition à la volonté de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est vrai que je peux vous citer un exemple tout simple, peut-être l'ai-je déjà cité, mais il y a quelques années en arrière, mon frère aîné et ma belle-sœur ne pouvaient pas avoir d'enfants. Elle a fait 9 fausses couches. Et à la 9e fausse couche, le spécialiste lui a dit « Madame, ne cherchez plus à avoir d'enfants, vous mettez votre vie en danger. » Parce que non seulement ça agissait sur le physique, mais ça agissait sur le moral. Et puis voilà que malgré tout ce qui a été dit, et sans comprendre le comment, l'aboutissement, on ne va pas rentrer, elle est tombée enceinte. Alors pour eux, ça a été des grands moments de joie. D'ailleurs, dans leur prière, ils disaient « Merci Seigneur de nous avoir donné cet enfant ». Et il a grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. Et il faisait la joie, le bonheur de chacun, il avait son activité personnelle, il avait son activité aussi au sein de l'Église, il jouait du saxo, il participait à la vie de l'Église. Et voilà que vers les 19 ans, il a été atteint d'une leucémie. Alors on a mené le combat de la prière, de la foi, mais à 20 ans, le Seigneur l'a repris. Il l'a rappelé dans sa maison. Et le soir de son décès, il a dit aux infirmières qui étaient là, « Enlevez-moi, parce qu'il était perfusé de tous les côtés, enlevez-moi toutes ces perfusions, car ce soir je rentre à la maison. » Il est parti dans la gloire. Et bien que cela fût pour la famille et pour les parents une grande joie de savoir qu'il est parti en disant ces mots, qu'il était dans la gloire, il y a quand même cette question qui est venue à l'esprit, pourquoi avoir donné et pourquoi avoir repris? Lorsqu'il n'y a ce qu'il y a, ce qu'il n'y a, ils ne s'attendaient plus à avoir d'enfants. Mais ils ont eu 20 ans de joie. Mais là alors, on comprend ce que Job disait. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais voilà, et la vie a continué, mais la joie qui était placée dans les cœurs, on ne peut pas vivre une vie sans se souvenir des instants qu'on a passés ensemble, en famille, mais la joie qui est en nous, même si en pensant, il n'est plus là, ça peut arriver encore, mais en fond de nous, il y a une joie qui demeure et qui demeure éternellement, c'est pour cela que je vous ai cité ce verset, c'est que nous avons en nos cœurs la joie du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et puis il y a aussi cette joie du revoir qui est là, car nous savons qu'un jour nous rentrerons dans la gloire et que ceux qui nous ont précédés, nous allons les rejoindre et tous ensemble nous rentrerons dans la gloire. C'est aussi un sujet de joie. En fait, quand quelqu'un nous quitte, notamment un enfant de Dieu, quel qu'il soit, de la famille ou de la famille des chrétiens, ce n'est pas un adieu, hein. C'est un au revoir. Et quand il part, on peut lui dire à bientôt, on se reverra dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Et ça nous procure beaucoup de joie et ça console les cœurs. Alléluia. Par contre, je suis quand même amené à vous dire que l'on peut perdre cette joie. La joie du salut. Le salut qui est la source de notre joie. Il y a au moins un homme, je vais prendre cet exemple que tout le monde connaît, grand et petit, c'est David. Et il a même confessé dans le psaume 51. Il nous est dit que David, psaume 51, verset 14, dit ceci, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc on peut perdre la joie du salut. Et nous savons que s'il a perdu la joie de son salut, c'est qu'il a désobéi à Dieu. Si vous connaissez bien l'histoire de David et cet épisode de sa vie, nous savons aussi que ce n'est pas parce qu'il y a seulement adultère, c'est parce qu'il a commis un meurtre par personne interposée. Et quand on prend, là je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais quand on prend ce même verset dans d'autres versets de la traduction biblique, eh bien il nous est dit « Seigneur, lave-moi du sang répandu ». Et vous voyez à qui il fait allusion ? À celui qui devenait gênant et qu'il a mis en première ligne pour qu'il soit Uri, oui, qu'il soit tué au combat. Et là, il est tombé de haut parce que d'un seul coup, il perd sa joie, la joie du salut, il le réalise. Et si Dieu, par la suite, lui a renouvelé cette joie, c'est que, justement, le psaume 51, c'est le psaume de repentance de David. Et il pria avec sincérité. Par la suite, il pleura de larmes amères. Mais Dieu l'a rétabli. Parce qu'il était sincère, malgré son erreur. Et souvenez-vous qu'il est écrit dans la parole qu'il n'y a pas un seul homme ou un seul être humain qui ne bronche pas dans sa marche. Mais il est écrit que le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne se lasse pas de nous pardonner tant que nous sommes sincères dans notre repentance et que nous revenons vers lui. Et David a retrouvé sa joie et David a gardé son trône parce que Dieu a déclaré aussi bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament répété, David, homme selon le cœur de Dieu. Puissions-nous voir, nous aussi, avoir le cœur qui correspond au cœur de Dieu. Alléluia. Un cœur qui obéit et qui fait sa volonté. Et que s'il y a erreur, nous ne soyons pas de ceux qui demeurent dans leur erreur, mais qui sachent reconnaître leur erreur devant le Seigneur, et le Seigneur qui est bon, juste et compatissant, miséricordieux, sera celui qui nous pardonnera et qui nous rétablira. Alléluia. Que c'est bon de vivre avec le Seigneur. Je vous fais quand même aussi rappeler que la joie, c'est le deuxième, on va dire, fruit de l'esprit. Hein. Le fruit de l'esprit est composé de plusieurs, mais quand on le lit, vous connaissez, je vais quand même vous le relire, Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » On va s'arrêter simplement sur ces quelques petites pensées, enfin quelques petits instants, sur cette parole que Paul donne aux Galates où il dit, et il mentionne la joie, et il cite en second plan, qui va entraîner aussi tout le reste. Mais le premier, qui a toute son importance, c'est l'amour. Et la joie. Alors, on se pose une question, pourquoi pas la joie en premier et l'amour ensuite? Je vais vous dire pourquoi. Je pense que j'ai la bonne réponse. Si elle n'est pas bonne, veuillez me pardonner. Parce que sans amour, il ne peut pas y avoir de joie. Oui, non? Alors, un exemple, terre à terre, pourquoi les gens divorcent? Enfin, aujourd'hui, ils ne divorcent plus, ils se séparent. Parce que le divorce est devenu trop cher. Alors, on se sépare. Puis c'est tellement plus simple. On se sépare, on va vivre comme on veut. Aujourd'hui, on prend et on jette. Et on recommence ainsi. La vie est ainsi faite aujourd'hui. Permettez-moi de dire, c'est une vie d'immoralité. Mais nous y sommes en plein. On divorce parce que l'on ne se supporte plus. C'est vrai? Je me trompe ou quoi? Et pourquoi on ne se supporte plus? Parce qu'on ne s'aime plus. Et si on ne s'aime plus, on ne peut pas produire de la joie. En premier. Parce que quand on s'aime, on est heureux d'être ensemble. Mais à partir du moment où on n'est plus heureux d'être ensemble, eh bien, que la joie est morte, eh bien, on n'aura même plus de paix parce qu'on ne s'aime plus. Et puis, je vais arrêter la liste parce que vous pourrez vous-même faire l'analyse de ces choses. La base d'une vie de joie, c'est l'amour. Et Dieu nous a sauvés par amour. Et dans son amour, il nous a donné la joie du salut. Notre joie, c'est sa joie. Alléluia. Êtes-vous ce matin rempli de la joie de Dieu? Peut-être qu'un jour, on aura le privilège, si Dieu le permet, de parler, peut-être avez déjà eu cet enseignement, mais c'est pas grave, sur le verbe remplir dans la parole de Dieu. Rempli de joie. quand on est rempli avec le Seigneur, c'est que ça ne s'arrête pas au niveau au ras de bord. Quand on est rempli du Seigneur et de la joie du Seigneur et de l'esprit de joie, ça déborde. Ça rayonne. Excusez-moi, ça rayonne. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, ayant une espérance de délivrance constante et éternelle, nous sommes tout de même, je l'ai dit, mais je le répète, assujettis dans ce monde et dans notre vie à des situations faciles ou difficiles, de calme ou de combat, des hauts et des bas, qui influent sur notre joie intérieure et extérieure. Mais tout cela ne doit pas enlever la joie de l'esprit, la joie du salut que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas oublier, et nous l'avons entendu ce matin, ce que la Bible nous enseigne, Jacques chapitre 1 verset 2, parole vivante, mes frères. Ah, il n'y a pas écrit mes sœurs. Ah si, mes frères et mes sœurs, ça veut dire l'être humain. Réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, et là il est écrit, écoutez bien, estimez-vous heureux. Non, mais je suis en train de réfléchir là d'un seul coup. Peut-être que dans ma prière, maintenant je vais dire, Seigneur, je vais être encore plus heureux, alors avant moi plus d'épreuves. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Seigneur, j'en ai déjà pas mal, merci Seigneur, de ton aide et de ton soutien. Seigneur, tu es ma force et mon soutien, c'est vrai. Il nous est dit, elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Et la question qui se pose ce matin, mes frères et sœurs, est-ce que la joie qui est en nous est une joie parfaite? Eh oui, il faut réfléchir quand on lit la Bible. Eh oui. Les chrétiens ne sont pas exempts de situations difficiles, mais il y a un danger. Je ne peux pas taire ça. Il y a un danger. Un danger qu'ils se laissent séduire par des pensées de découragement et qu'ils ne s'appuient plus sur les promesses divines parce qu'ils connaissent une perte de la vie de l'esprit qui renouvelle les forces pendant la marche. Et à partir de ce moment-là, ils perdent la foi et leur joie. Il faut fermer notre esprit aux mauvaises pensées qui voudraient nous décourager pendant que nous passons des situations difficiles. Et le diable, il est fort. Il ne s'est pas gêné de venir au travers du psalmiste qui connaissait des épreuves, il dira que ses ennemis vont venir le trouver et ils vont lui dire « Que fait ton Dieu ?» Ça, c'est le diable. Et il peut se servir des gens qui vous entourent, à ceux à qui vous avez rendu témoignage et vous êtes dans une épreuve où apparemment vous ne voyez pas la fin. Alors ils vont se présenter « Que fait ton Dieu ?» À quoi ça te sert de lire la Bible ? À quoi ça te sert les prières que tu élèves? Que fait ton Dieu? Et nous, on reçoit ça en pleine figure. Et des fois, on se sent désarçonné parce qu'on dit, intérieurement, il y a une petite voix qui vient qui dit, tu crois pas qu'il a raison? Et nous, on laisse. Et d'un seul coup, le doute rentre dans nos cœurs. Le doute rentre dans notre pensée. Le doute rentrant en voyant la difficulté, alors on commence à ne plus avoir confiance dans les promesses de Dieu, dans les promesses de bénédiction, dans les promesses de guérison. La foi s'effrite. Et en même temps, la joie de salut s'effrite parce qu'on dit, à quoi ça sert de croire? Je crois et je ne vois pas. Je crois, il n'y a pas la bénédiction. Je crois et j'attends. Ça fait longtemps que ça dure et je ne vois rien. Mais tu as une espérance qui ne trompe pas. La vie éternelle. Et que t'importe, ou que m'importe, si je dois partir, quitter cette terre, dans des épreuves et des difficultés, qu'importe, je sais où je vais, et vous aussi. Amen. Et ça ne doit pas enlever votre joie. Parce que votre joie est éternelle. Demandez seulement au Seigneur la force de surmonter l'épreuve et de garder la foi jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Alors nous serons heureux, car nous rentrerons avec notre Seigneur dans la vie éternelle et il nous donnera la place qu'il nous a réservée en nous remettant la couronne de la vie. Alléluia. Quelle grâce. Vous savez, peut-être quelqu'un pourrait me dire, mes frères, ce matin, je ne comprends pas trop, parce que perdre la foi, est-ce possible? Ah oui, parce que peut-être certains disent, la foi, on ne la perd pas. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18-19. Paul à Timothée. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophètes faits à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. C'est écrit? Pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de Timothée. On peut perdre la foi à cause du découragement. À cause de ce qu'on n'en met plus confiance à la parole de Dieu. Souvenons-nous quand même, je cite ce verset que vous connaissez tous par cœur, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si je veux entretenir ma foi, la rendre ferme, je dois m'appuyer chaque jour sur la promesse divine, c'est-à-dire la parole de Dieu, et les promesses qu'elle m'enseigne. En attendant patiemment l'heure de la délivrance, et permettez-moi d'ajouter celle que Dieu voudra. L'essentiel, c'est d'être prêt. Alléluia. Prêt dans la foi et prêt dans la joie. Mais continuons encore un petit peu. Vous me laissez encore 5 minutes. Je vais essayer. Jean 6, verset 22, il est dit, vous donc aussi, traduction la colombe, vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse. Il se peut que nous ayons de la tristesse. Peut-être quelqu'un pour nous, ce matin, parmi nous. Mais je vous verrai de nouveau votre cœur. Alors c'était là par rapport à une séparation. Mais je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. Nul ne vous ravira votre joie. Celle qui vient d'en haut. Amen. Gloire au Seigneur. Peut-être que vers les 1h, 1h30, cet après-midi, 14h, enfin je ne sais pas, moi je ne serai pas là avec vous, mais peut-être que vous allez, messieurs les papas, être réjouis. Parce que vous allez avoir vos enfants qui vont venir et qui vont vous apporter un petit cadeau. C'est la joie. Et c'est vrai. On ne peut pas nier ça. Mais vous savez que, et là je m'adresse à l'assistance entière, vous savez que quand même Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux. C'est le don de Jésus à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nul ne vous ravira votre joie. Alors, j'ai parlé de Jésus, de sa crucifixion, mais je voudrais quand même souligner que la joie que nous mentionnons ce matin, qui doit être la joie du salut, manifestée aussi par le Saint-Esprit, eh bien elle est mentionnée, mais elle a été vécue par des personnes dans des circonstances différentes. Alors, tout d'abord, la joie a été exprimée le jour de la naissance de Jésus. Non ? Vous vous en rappelez quand même ? Hein, je vais quand même le souligner, si vous me permettez, Luc 2, versets 10 et 11, parole vivante, mais l'ange, parlant au berger, mais l'ange les rassura, n'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle, ou bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple de Dieu, et on va dire le monde entier aussi, un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la vie de David, est né un sauveur, c'est lui, celui qui vous délivrera, c'est le Messie, le Seigneur. Alors là, juste une petite accommodation, si vous permettez. Dans la ville de David, est né un sauveur, ça a été un sujet de grande joie. On est d'accord avec les textes? Mais un jour, mes frères et sœurs, Jésus est né. Où? Dans votre vie. Et ce jour-là, ce fut pour vous un sujet, j'espère, de grande joie. Mais cette joie, elle doit continuer puisque Jésus a dit, je suis né en vous, mais je suis tous les jours avec vous. Alors tous les jours, je dois être dans la... Je vais recommencer, il n'y en a que quatre qui ont suivi. Là. Chaque jour, je dois être dans la...
Joie.
Pas la joie terrestre, mais la joie éternelle. Et vous allez voir, frères et sœurs, mais j'espère que vous en avez fait déjà l'expérience, quand on considère cela, ça nous fait regarder les choses d'une manière différente. Parce que la source de notre joie, elle a un nom, c'est Jésus. Alléluia. Et cette joie ne disparaîtra pas, puisqu'elle sera éternelle. Amen. Maintenant, lorsqu'il y a eu la crucifixion du Seigneur Jésus, vous avez certainement lu ce texte, entendu, et vous avez remarqué qu'il y a eu de la peine. Il est mort. Il y a eu des larmes. Il y a eu des craintes. Il y a eu des peurs. Il y a eu des incertitudes manifestées par les chrétiens, les disciples. Mais tout cela, quand on lit bien les textes, ça n'a duré qu'un temps. Et le temps, c'est Dieu qui en est le maître. Mais Dieu avait fait une promesse, Jésus l'a dit. Il faut que je monte à Jérusalem, que je sois crucifié. Et il avait ajouté, et trois jours après, je ressusciterai. Les disciples ont entendu, les 12, mais tous les disciples ont entendu cette parole. Même les sœurs, enfin les dames qui accompagnaient le Seigneur Jésus et qui le servaient aussi. Ils auraient dû dire, bien, la parole de Dieu s'accomplit. Oui. Il a donné sa vie. Il est maintenant dans le tombeau. Mais évitons les pièges, parce que vous pouvez les relire, hein, tout ce que je vous dis, crainte, peur, tout ça, c'est manifesté dans les Saintes Écritures. Au contraire, ils auraient dû dire, attendons l'accomplissement de la promesse. Alors on peut se poser en fait une question, mais pourquoi ces disciples, ces hommes, ces femmes qui ont entendu les paroles de Jésus quant à sa mort et quant à sa résurrection, pourquoi sont-ils rentrés dans les larmes, dans les pleurs, dans les craintes, dans ce qui pourrait leur arriver, connaître les persécutions et tout ce que vous voulez? Tout ça c'était dans la tête, ils s'étaient enfermés, en parlant des disciples, les 11 s'étaient enfermés dans une chambre parce qu'ils avaient de la crainte de sortir, de peur de connaître les mêmes mésaventures que le Seigneur Jésus, ils étaient là. Mais pourquoi? Ils ont perdu leur joie. Le maître n'est plus là. Pourtant, il avait parlé, le maître. Alors, la Bible dit, ils mirent en oubli les paroles du Seigneur. Et mes frères et sœurs, à partir du moment où on oublie les paroles de Dieu, quand on est dans l'épreuve, ceci c'est pour conforter ce que je vous ai dit précédemment, quand on oublie, on tombe. Doucement, mais sûrement. Les femmes qui sont allées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, tombent dans la tristesse. Vous vous rendez compte, elles sont dans la tristesse. Il a fallu que les anges leur disent, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Et ça a été pour elle une grande consolation et un sujet de joie. Le maître est ressuscité comme il nous l'avait dit. Alléluia. Et dans cette joie, les femmes, elles partent pour trouver les disciples. Et arriver, quand on lit les textes, on est quand même étonné, même si on les connaît. Elles arrivent, elles manifestent leur joie. Il est ressuscité, le tombeau était vide. Et les autres, ils les écoutaient, là. Luc 24, 11, vous le relirez, hein. Parce que vous êtes peut-être en train de dire, oh, le frère Asquat, il va où, là? Il est écrit dans français courant, mais ceux-ci pensèrent, en parlant des disciples, que ce qu'elle racontait était absurde. Et ils ne les crurent pas. Des dents, permettez-moi de dire, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ou croire. Ils avaient déjà en 3 jours mis en oubli tout ce que le Seigneur Jésus leur avait annoncé. Et en ce qui concerne sa mort et sa résurrection. Le Seigneur est réellement ressuscité. Écoutez encore ce verset. Luc 24, 41, parole vivante. Alors là, ça va rééquilibrer un petit peu. Il est dit, mais ils étaient si heureux, les 11, ils étaient si heureux qu'ils hésitaient à le croire et ils restaient là, ébahis, c'est-à-dire la bouche ouverte, hein, ébahis, et quand même, il est ajouté, incrédule. Dur, hein? Dur. Mais nous savons, nous, que Jésus est ressuscité. Et le Seigneur Jésus a bien prouvé qu'il était ressuscité. Parce qu'un jour, il s'est approché de 2 hommes. Oui, non? Les disciples d'Emmaüs. Et alors, il va le dire, j'allais dire, il est arrivé incognito. Et il les écoute et il dit, mais de quoi vous entretenez-vous là pendant votre marche? Et là, un des deux a dit, on s'entretenait de... Non, enfin, ne sais-tu pas ce qui est arrivé, là, au sujet de Jésus? Et il a raconté l'histoire, et puis il marchait, il continuait à marcher. Ils expliquent à Jésus ce que Jésus leur avait déjà enseigné. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez. Mais il arrive, et ils arrivent à une auberge, et dit, ah bien, voilà, on va aller se restaurer. Jésus a voulu partir. Non, 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 reste avec nous. Viens, prends le repas. Alors Jésus est rentré dans l'auberge avec eux. Et savez-vous, mais je pense que oui, je vais vous poser la question, savez-vous comment l'ont-ils reconnu? Pour certains, vous allez me dire oui. C'est avant de manger, le Seigneur a pris le pain et il a rompu le repas. Et il dit, il est là! Il est ressuscité. Jésus les a laissés, il a continué sa route. Et il va continuer sa route. Mais entre-temps, il nous est dit que ses disciples arrivèrent dans la maison où ils se tenaient. Et ils arrivèrent avec ce message ô combien merveilleux en disant « Le Christ est vraiment ressuscité. » Mais je vais vous poser une dernière question en terminant. Ça va? Vous supportez le choc là? Bien que c'est avec beaucoup d'amour que je vous parle de la part du Seigneur. Quand l'ont-ils vraiment reconnu? Ça, c'est pour les disciples d'Emmaüs. Mais pour les 11 qui étaient dans la chambre là-haut, en train de... Quand l'ont-ils reconnu? Oui. Mais attendez, avant d'aller plus loin, mon frère. Oui, d'accord. Ils rentrent. Et qu'est-ce qu'ils disent là, entrant, quand Jésus rentre? Si ma mémoire ne me trahit pas, la première des choses qu'ils disent, c'est un fantôme. Comment? Il a fallu que Jésus leur parle, leur disant, la paix soit avec vous. Je suis ressuscité. Mais là, quand j'ai dit 11, je me suis trompé parce qu'il n'y en avait que 10. Parce qu'il y en a un qui n'était pas là. Les disciples, il a dit, le plus courageux, c'est toi, Thomas. Vas-y, va à Intermarché, voilà. Va faire les courses, nous, on ne sort pas. Va nous chercher des vituailles, reviens. Et puis, voilà. On va bien penser à toi, débrouille-toi tout seul. Alors Thomas était parti, il n'était pas là quand Jésus est revenu. Il est venu pour la première fois. Et quand Thomas revient, ben, Jésus n'était plus là. Alors les disciples ont dit, tu sais, on a vu Jésus, il est venu, il est ressuscité. Et Thomas a dit, ah ben oui, d'accord, mais si je ne le vois pas, et si je ne mets pas mes doigts dans son côté, dans ses blessures, je ne crois pas. Mais comme Jésus sait tout et entend tout, quelque temps après, Jésus revient. Et là, ils ne le prennent plus pour un fantôme, heureusement. Mais Jésus revient avec la même promesse, la paix soit avec vous. Oui, vous vous souvenez? Et directement, Jésus va s'adresser à Thomas. Mais comment est-il au courant de la conversation?
Dieu sait tout.
Toute petite parenthèse que pour vous dire, Dieu sait tout de vous et de moi. Et il y a toujours des versets qui nous accrochent quelque part, mais qu'il faut citer. Il est dit, par exemple, c'est par rapport à même, au texte aussi, c'est par tes paroles que tu seras jugé. Je ne sais pas quand vous lisez ça, mais moi, quand je lis ce verset et que je repasse dans ma tête, je tremble un petit peu quelque part. Vous voyez, vous surveillez ces paroles, vous surveillez ce qu'on dit, vous surveillez sur qui on dit. Oh, c'est pour cela qu'il est dit, mets une garde à ma bouche, afin de ne pas pécher contre toi. Mais revenons à notre texte, Jésus va venir vers Thomas et dire, oh, Thomas, avance. Mets ici ta main, le côté, regarde, les meurtrissures. Et là. Thomas va dire, mon Seigneur. Et mon Dieu. D'un seul coup, tout ce qui était dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, tout ça, ça a disparu. Et la joie et la paix ont rempli leur cœur. Alléluia. Alors, j'arrête là parce que j'avais encore quelques pensées, mais ça ferait trop long. Pour vous dire simplement, en terminant, que ces disciples-là, qui étaient là-haut, dans la chambre, se cachant, ils ont écouté ensuite les paroles de Jésus, puisque Jésus resta 40 jours avec eux, après sa résurrection. Il les a à nouveau enseignés, puis il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous remplira. Allez à Jérusalem, allez dans la chambre haute, et attendez la promesse. Alors les disciples là, ils ont obéi, ils ont écouté cette parole du Christ ressuscité. Ils ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit, alléluia. Ils parlèrent en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les gens qui voyaient ça, ce tumulte, mais ils entendaient parler, il y avait là plusieurs ethnies de personnes, et les uns disaient, mais ils parlent en ma langue, ils ne comprenaient plus rien, le Saint-Esprit animé, ces 120 qui étaient là. Bonne nouvelle, Marie, mère de Jésus, c'est une pentecôtiste. Quoi? Vous êtes tous étonnés, il y avait bien Marie et ses frères dans la chambre haute, elle aussi, elle a parlé en langue, alléluia! Quand je dis ça, des fois, à certains cathos, ils me regardent. Et c'est vrai, c'est pas un reproche si on leur enseigne pas la vérité, comment voulez-vous qu'ils sachent? Quand on cache la vérité, on peut pas savoir, mais quand ils la découvrent, alors quel changement, quelle transformation? Quelqu'un un jour m'a dit, mais on ne l'a jamais dit. Et c'est 11 pour terminer. Rempli du Saint-Esprit. Regardez Pierre, rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Et quelle prédication, mes amis! Il n'avait plus peur, il n'avait plus de crainte. Ah, il prêchait au nom de Jésus, la personne de Jésus, ce que Jésus avait fait à la fin de sa prédication. Il dit, convertissez-vous pour votre salut, soyez sauvés, baptisez-vous au nom de Jésus. Et là, ce jour-là, 3000 âmes se convertirent. Parce qu'à ce moment-là, je n'y étais pas, mais je suis persuadé de fond de mon cœur. Et si je me trompe, mon Père Céleste, pardonne-moi, mais quand Pierre prêchait, il n'y avait pas que la puissance du Saint-Esprit, il y avait la joie, il y avait le rayonnement divin. Tout comme Moïse qui est descendu de la montagne, après avoir passé 40 jours dans la présence de Dieu, il descendra, il a été obligé de couvrir son visage d'un voile parce qu'il rayonnait de la personne de Dieu. Alléluia. Attendez, je ne dis pas ça pour que vous mettiez le voile. Pas du tout, Non, ni voile, faites comme vous voulez, mais non, lui c'est parce que c'était pour le contact, personne ne pouvait regarder ce rayonnement. Mais vous savez, frères et sœurs, en terminant, je vous dirai que si nous avons la joie de l'esprit, si nous avons la joie du salut, nous allons rayonner et nous allons attirer les regards des gens parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Pourquoi rayonne-t-il comme ça? Pourquoi y a-t-il la paix sur son visage? Et quand ils sauront que vous êtes dans l'épreuve et qu'ils verront que vous êtes toujours dans la paix et dans une joie, toujours souriant, malgré l'épreuve, la difficulté, ils diront, il a quelque chose que je n'ai pas. Et là, vous pourrez parler, tout comme Pierre, d'un Jésus ressuscité et vivant. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous supportons dans notre monde les aléas d'une vie difficile. Ce n'est que le début.
nous avons franchi des étapes dans notre monde. Pire que Sodome et Gomorrhe. L'immoralité. Ceux qui dirigent, je me jette à l'eau. Ceux qui dirigent sont complaisants de toutes ces choses. Ils les approuvent. Dans certains cas, la Bible dit que ceux qu'ils approuvent sont aussi coupables que ceux qui corrigent. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas mettre un fardeau que l'adversaire de notre âme veut mettre sur nos épaules. Nous avons le ressuscité avec nous. Amen. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Amen. Nous avons la parole qui est la vérité avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Et si même, et là je ne parle que pour moi-même, et si même on devait atteindre mon corps, jamais personne n'atteindra mon âme parce qu'elle est gardée et je serai sauvé pour l'éternité. Alléluia. Ne devez pas baisser les armes devant l'adversité, pas baisser les armes devant l'immoralité, mais que le Seigneur nous donne la force de continuer à témoigner, à prêcher l'Évangile. Amen. Nous ne savons pas ce que sera fait demain pour le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu doit demeurer fidèle.
Amen.
Jusqu'au bout. Autrement, il y a des cantiques qui font enlever. C'est dommage qu'il y a certains cantiques des ailes de la foi qui ont été enlevés. Mais je terminerai par celui-ci, mais je ne le chanterai pas. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, qu'il vous aide, qu'il vous soutienne, et soyez un rayonnement de la joie de l'Esprit qui vous anime, et que votre vie soit une vie pleinement bénie de bénédiction. Permettez-moi cette répétition, c'est pour bien me faire comprendre que Dieu vous aime, et que Dieu veut vous bénir, qu'il veut vous garder, et vous sauver pour l'éternité, que son nom soit loué et exalté à jamais. Amen.